Et maintenant, sur les ondes de Radio Albitzes, retrouvez votre créneau conférence. Aujourd'hui, retrouvez des échos de la foire Biocybelle 2018 avec Bernard Bertrand aux sources de l'autonomie, la vannerie sauvage, une conférence enregistrée lors de l'édition de la foire Biocybelle 2018 sous le chapiteau Forum. Bernard Bertrand est créateur des éditions du Terran. Source de plaisir utilitaire et créative, la vannerie sauvage est une discipline aussi vieille que l'humanité. Capable de favoriser l'accroissement de la ressource tout en l'exploitant, partez à la découverte des végétaux qui poussent autour de chez vous et peuvent être tressés. Vous découvrirez aussi toutes les techniques d'entrelacs qui permettent de réaliser les paniers dont vous avez besoin sans bourse déliée. Bonne écoute!
Bien le bonjour, bonsoir à toutes, bonsoir brave monde et bienvenue à l'édition 2018 de Biocybelle. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Bernard Bertrand pour une conférence sur la vannerie sauvage. Avant de commencer la conférence, on va faire un petit sondage à main levée. Qui c'est qui connaît Radio Albitzes ? Pas trop des mondes. Bon, Radio Albitzes, petite radio associative d'Albi, du Tarn. Radio occitane à la base, mais qui est ouverte à toutes les cultures du monde. On est implanté à Cantepo, dans un beau quartier d'Albi. Une radio sans pub qu'il faut absolument soutenir. Un espace sans publicité, c'est important. Il y en a de moins en moins chaque jour. Allez, second petit sondage. Est-ce qu'il y a des initiés à la vannerie sauvage ?
Quelques-unes.
On va essayer d'adapter cette conférence pour le plus grand monde. Pour le grand public, donc cette conférence sera rediffusée sur les ondes de Radio Albitzes. Vous pourrez aussi la télécharger, comme toutes les conférences de Biocybelle. Si vous allez sur notre site internet, vous pouvez déjà retrouver les conférences et les interviews réalisées l'année dernière. Alors, Bernard Bertrand, avant de commencer la conférence, un peu vous présenter, d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à la vannerie.
Me présenter en deux minutes, c'est compliqué, mais bon... Je viens des Pyrénées centrales. Ce qui m'a intéressé dans la vannerie, je me suis intéressé à la vannerie en... Les premiers paniers, je l'ai fait en 1975. Ça commence à dater un petit peu. Dites-moi que je ne l'ai fait pas, ça me rassure toujours. et c'était justement avec un projet agricole d'installation dans les Pyrénées centrales donc, et de recherche de techniques qui permettait de rendre justement le paysan autonome et pas dépendant. Parce que je suis fils d'agriculteur redevenu paysan. Mon projet de vie, c'était de redevenir paysan, mais libre et non pas dépendant du crédit agricole avec les pieds et poings liés, avec tout le système productif que j'ai vécu étant enfant et qui m'a déplu. Et que j'ai subi au niveau du lycée agricole aussi. Donc je sais de quoi je parle de ce côté-là.
Alors, vous êtes venu avec... quelques exemples de vannerie et aussi, je crois bien, des ouvrages qu'on pourra vous acheter après, au fond.
C'est oui, ça je suis aussi le créateur des éditions de Terran. Terran, c'est le nom de ma ferme dans les Pyrénées. Et cette maison d'édition, elle a un petit peu plus de 20 ans maintenant. Et c'est ce qui m'a permis de transmettre aussi tout ce que personnellement j'ai accumulé au cours de mon parcours professionnel de paysan, mais aussi de donner la parole à d'autres auteurs, puisque les éditions de Terran publient de multiples ouvrages sur l'écologie pratique, beaucoup sur le jardinage bio. Et depuis 6 ans, là, c'est pas les éditions de Terran, mais c'est Terran Magazine, une autre structure que j'ai créée, qui propose une revue de vannerie qui s'appelle Le Lien Créatif, que je vous invite à découvrir sur la table à l'arrière, là où Christina vous recevra. Et c'est effectivement la seule revue de vannerie qui existe. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Donc c'est un équilibre fragile, mais qui tient le coup, parce qu'effectivement, on a des abonnés passionnés qui nous soutiennent. on a 2700, 2800 abonnés. Et grâce à ça, on arrive à faire un travail de collectage du patrimoine et des savoirs traditionnels tout à fait remarquables. Et on a envie de continuer le plus longtemps possible parce qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. Chaque jour, on découvre des choses nouvelles, y compris dans ce domaine de la vannerie qui est l'un de ceux que je pratique le plus.
Bapla. Alors, est-ce que vous entendez tous bien ? Oui, il n'y a pas de souci de son. N'hésitez pas, si à un moment vous entendez mal, vous pouvez nous demander de lever le son. Il y a un micro qui sera disponible aussi pour vous. N'hésitez pas à poser des questions. Baki, Bernard Bertrand, Yanan, c'est parti.
Merci pour l'invitation. Merci de me recevoir ici. Donc, la vannerie sauvage. Alors, je ne sais pas par quel bout prendre les choses. Il y a deux points importants dans cette histoire que je vais vous raconter. Il y a les matériaux et il y a les techniques. Les matériaux qui sont locaux, puisque la vannerie, il faut le dire, est une technique un artisanat très opportuniste. Les gens faisaient de la vannerie avec ce qu'ils avaient sous la main. Et puis la deuxième histoire intéressante aussi, c'est celle des techniques. Et là, c'est l'opposé. Là, on est dans un domaine de l'universel. Effectivement, les techniques qu'on utilise en France ici peuvent être utilisées partout autour du monde avec des degrés de perfectionnement complètement différents. On est assez pauvre en Europe occidentale en termes de techniques. Mais ce sont les mêmes techniques qu'on utilise en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, etc., etc. Petite introduction, je ne sais pas si ça va être sympa pour l'enregistrement radio, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main. Moi, ça me permettra de respirer un petit peu aussi. Il peut y avoir un échange, je pense que ça peut être sympa. Oui, voilà. Puis je répéterai les questions si jamais. C'est vrai que c'est une conférence difficile à enregistrer juste avec le son, puisqu'elle s'appuie sur tous ces... quelques-uns des modèles de la collection que j'ai rassemblée au fil des ans. L'histoire de la vannerie, je l'ai dit tout à l'heure quand on a fait une petite présentation, l'histoire de la vannerie, elle commence très très tôt. Dès que l'homme est apparu sur Terre, il faisait sans doute de la vannerie. On n'en a pas la preuve ni la certitude. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans le règne animal, tout, que ce soit les oiseaux, les insectes, les mammifères, les poissons, dans le règne animal, tous les animaux, on trouve des exemples d'animaux qui sont capables de faire de la vannerie. Le plus connu, bien sûr, c'est le nid d'oiseau, qui est une vannerie au sens propre du terme. C'est un entrelac de matériaux, parce que la définition de la vannerie, c'est quoi ? C'est entrelacer des matériaux pour leur donner pour leur prolonger leur vie. Si vous laissez les matériaux secs, ils vont se briser, on ne peut rien en faire. La vannerie, c'est rassembler des matériaux pour leur donner une certaine souplesse, pas uniquement, une certaine résistance et une durabilité dans le temps. Et éventuellement, quand on va... Une raison d'être aussi, bien sûr. Mais aujourd'hui, on fait de la vannerie qui est purement esthétique. On s'est un petit peu détourné des fondamentaux de la vannerie, mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera la fin de ma présentation. Donc, vous voyez à travers ce nid qu'on a des exemples... très, très précis. Les plus connus sont les tisserins d'Afrique qui font des nids tout à fait somptueux. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces entre-là, ils nous paraissent aléatoires à nous, mais ils ne le sont pas du tout, puisqu'un nid de merle ressemblera toujours à un nid de merle. Un nid de tisserin, un nid de tisserin. Donc il y a quand même une structuration qui nous échappe, mais elle est bien réelle, ce qui permet aux oiseaux de reproduire d'année en année et dans une même race, espèce, de reproduire toujours les mêmes nids. Nous, notre structuration, elle est beaucoup plus carrée que les oiseaux ou que les autres animaux qui font de la vannerie. Mais elle est quand même... Elle est réelle. Dans les deux cas, elle est réelle. Les traces de la vannerie en archéologie sont très récentes. Ce sont des matériaux qui sont éminemment destructibles, qui n'ont pas de durée de conservation au-delà de quelques milliers d'années. Donc, on ne sait pas exactement par quel type de vannerie les anciens ont démarré. On peut se référer par exemple sur les grands singes qui font des litières, ils font des couches dans les arbres avec des entrelacs de branchages. Donc on a avant même l'apparition de l'homme, juste les primates, déjà on a des exemples. Donc on peut imaginer qu'il y a eu toute une évolution qui a pris des milliers d'années, voire des millions d'années. Et peut-être, Et peut-être, je crois qu'il faut être très modeste, et même sans doute, et même moi j'en suis convaincu, et peut-être que nos ancêtres, il y a 10, 15, 20 000 ou 100 000 ans, faisaient des vanneries beaucoup plus pointues, fines et pratiques que celles que l'on peut faire aujourd'hui. Ça, c'est fort possible. Partant de là, l'homme a eu des besoins, et c'est de ces besoins que sont nés effectivement l'évolution de cette technique. Donc en vannerie, on retrouve à la fois... On peut faire à la fois des vêtements, on peut faire des maisons, des cabanes. On peut faire des contenants pour aller faire des récoltes. On peut faire des contenants pour stocker les récoltes. On peut tout imaginer, tout type de vannerie. Et jusqu'à l'arrivée et à la systématisation du pétrole dans les années, disons, début du XXe siècle et milieu du XXe siècle, la vannerie était encore omniprésente partout. Et pendant très très longtemps, le corps de métier de vannier n'existait pas. C'est-à-dire que tout le monde faisait peu ou prou de la vannerie. Et dans chaque maison, effectivement, on faisait de la vannerie utilitaire pour nos besoins. Et quand on ne la faisait pas, on l'échangeait sur le principe du troc au voisin qui, lui, avait ses compétences. Le terme de vannerie sauvage, juste un mot avant, puisque c'est quand même le titre de la conférence, avant de regarder tous ces paniers. Le terme de vannerie sauvage, il vient de cette idée, effectivement, qu'on se balade autour de chez soi, ou là où on est, dans un milieu donné, si on va se balader en montagne ou ailleurs, loin à l'autre bout du monde, qu'on doit être capable de regarder ce qui pousse autour de soi et de tresser les matériaux que l'on a pour satisfaire nos besoins. C'est un terme qui est impropre. Voilà, j'ai eu... le malheur de l'utiliser pour le titre de mon premier bouquin sur la vannerie, il est resté. Il est impropre pourquoi ? Et pour preuve, ce fameux bouquin que j'ai écrit sur la vannerie sauvage, parce que dans ce bouquin, il y a des matériaux qui sont cultivés, comme le châtaignier, et que j'ai inclus dans ces techniques-là. Le mot qui serait le plus à propos, ça serait plutôt vannerie rurale, paysanne rurale, qui serait un terme plus juste, puisque si l'on... Sauvage, ça donne cette notion, effectivement, qu'on ne récolterait que des matériaux qui poussent sans être cultivés pour cela. Donc on en connaît deux aujourd'hui, le retin et l'osier, mais ce sont des matériaux qui sont d'introduction très récente dans les techniques vannières. L'osier est un petit peu plus ancien, mais pas tant que ça. C'est quelques centaines d'années, sans doute pas beaucoup plus. Sans doute que l'osier s'est développé avec la vigne, la culture de la vigne, puisqu'il était beaucoup cultivé au début pour attacher la vigne et pas forcément pour la vannerie. Et c'est seulement après qu'on s'est rendu compte du potentiel de ce matériau et surtout de l'efficacité avec laquelle on pouvait faire des paniers et rentabiliser effectivement cette pratique, ce qui est très difficile avec de la vannerie rurale et paysanne parce que c'est plus long que de la vannerie classique, je dirais, traditionnelle, j'ose pas employer le mot, parce que laquelle est traditionnelle ? C'est plutôt celle-ci qui est traditionnelle que celle d'osier. Mais la vannerie conventionnelle, celle qui est apprise à l'école de Faibilio, puisqu'il existe encore une école de vannerie en France, on a la chance, c'est la dernière en Europe, qui travaille uniquement avec l'osier, parce que ces techniques-là sont effectivement rentables, entre guillemets. Les vanniers ne sont pas payés cher de l'heure, mais il y a encore à peu près 200-250 vanniers professionnels. Il y en a sur le salon ici, je vous encourage à aller les voir, qui sont souvent issus de cette école et qui vivent de leur art. Donc voilà pour la petite présentation. Je vais commencer par essayer de vous... Alors je vais peut-être mélanger les matériaux et les techniques, C'est difficile de présenter certains paniers sans dire de quoi ils sont faits, mais les choses ne sont pas figées. On peut faire, il y a beaucoup de paniers que je vais vous présenter en vous disant c'est fait avec tel matériau, par exemple de l'osier ou du châtaignier, mais qui peuvent être faits bien sûr avec d'autres matériaux. Je le répète, c'est une chose importante qu'il faut retenir. Les techniques sont vraiment universelles, donc peu importe le matériau. Y compris d'ailleurs des matériaux de récupération, puisqu'aujourd'hui on fait de la vannerie aussi avec des liens plastiques, avec de la ficelle synthétique ou avec des vieux journaux. Hein, on peut aussi. Il suffit d'adapter le matériau. Donc les techniques sont vraiment universelles et le matériau, lui, va être un matériau opportuniste dans le sens où on prend ce qu'on a sous la main. En Afrique, aujourd'hui, ils font de très très belles vanneries avec des matériaux recyclés avec des couleurs tout à fait extraordinaires. On est incapable de faire le centième de ce qu'ils font, mais je peux vous assurer, pour en avoir vu, que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ce ne sont que des matériaux synthétiques. Donc ce fameux plastique qui a détrôné la vanille.
Vous écoutez la conférence de Bernard Bertrand, aux sources de l'autonomie, la vannerie sauvage. Une conférence enregistrée lors de la foire Biocibel, édition 2018, à Groyer.
Alors, parmi les plus primitifs, qui se rapprocheraient un petit peu du nid de l'oiseau, on retrouve des traces dans les populations autochtones de simples morceaux d'écorce qui sont repliés sur eux-mêmes et tenus écartés avec une tige de bois, qui sont aussi des récipients très fonctionnels pour aller récolter des baies, par exemple des fraises des bois, des framboises ou ce que les anciens avaient besoin de récolter. C'est la vannerie d'écorce. Elle est intéressante, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de préparation de matériaux. C'est l'époque où on peut récolter les écorces. Je vous rassure, ça n'abîme pas du tout les arbres. Moi, j'ai commencé à écorcer des bouleaux il y a plus de 20 ans maintenant et les arbres sont toujours vivants. Alors qu'à côté des arbres, ce que je n'ai pas touché, eux sont morts, parce que le bouleau est une espèce pionnière et sa durée de vie est relativement limitée. Donc, ce n'est pas l'écorçage qui va nuire à la survie de l'arbre. Je ne peux pas dire au contraire, mais en tout cas, c'est clairement pas l'écorçage. Quand on prélève une écorce, que ce soit du bouleau, que ce soit du merisier, que ce soit d'autres, du frêne, du châtaignier, on le fait à la bonne saison et c'est comme si on prélevait le liège d'un chêne liège. C'est exactement la même partie qu'on enlève, et quand on enlève le liège d'un chêne liège, l'arbre on va faire plusieurs récoltes. 20 ou 30 ans plus tard, on refera une nouvelle récolte. Et effectivement, je constate maintenant avec le recul, ce que je ne savais pas au début, que mes bouleaux, ceux que j'ai écorcés il y a 20 ans, ils ont refait une nouvelle écorce. Donc ils ont cette capacité très très vite de se protéger par une petite pellicule noire qui apparaît très très vite dans les semaines qui suit la récolte et qui fait que l'arbre n'est pas abîmé. Donc ça, c'est important de le dire parce que c'est toujours la question qu'on me pose et ça me surprend toujours parce que c'est vrai que les gens n'ont pas peur de couper un arbre pour se chauffer, mais aller enlever un bout d'écorce pour faire un panier, ça dérange. Je comprends pas où est le problème, mais voilà, c'est toujours assez surprenant. Le bouleau est intéressant parce qu'avec le bouleau, effectivement, on a fait des habitats, bon, surtout dans le nord de l'Europe, hein, où le bouleau est le plus présent et les plus grands arbres. Mais on a fait aussi en Amérique du Nord, par exemple, des canaux en écorce de bouleau. Donc des canoës qui sont tout à fait étanches. Ils sont étanchéifiés avec des résines, mais qui ont permis le développement des civilisations amérindiennes et sur lequel s'est appuyé tout le commerce des premiers Canadiens avec les populations autochtones. Tout le commerce des fourrures s'est appuyé effectivement sur la flottille de canaux dont disposaient les Amérindiens, qui leur permettaient comme ça de traverser tout ce territoire immense. Là voilà un autre petit panier en écorce de bouleau, un petit peu plus abouti. C'est une technique, je vous en parlerai tout à l'heure. Il devrait aller ici, celui-là. Une autre écorce intéressante, parce que connue depuis très longtemps, pour rester un petit peu en archéologie, l'écorce de tilleul. Le tilleul, en Europe occidentale, il y a deux espèces végétales qui ont permis à nos ancêtres de récupérer des fibres facilement. C'est le tilleul et la deuxième, vous la connaissez ? Personne ? L'ortie. Le lin et le chanvre ne sont que d'introduction récente, là aussi, quelques milliers d'années, bien sûr. Mais voilà, c'était pas. Il a fallu l'apparition de l'agriculture pour développer ces cultures-là et pour qu'elles gagnent du terrain. Mais avant, effectivement, c'était le tilleul et l'ortie. Et puis pour les boîtes, effectivement, le bouleau. Vous avez peut-être entendu parler d'Otzi, cette momie qui a été retrouvée dans les Alpes, à la limite de la frontière suisse, autrichienne et italienne. Il portait sur lui à la fois des boîtes en écorce de bouleau, il portait certaines pièces de ses vêtements en libère de tilleul, je vous expliquerai tout à l'heure le libère de tilleul, et il avait des cordes, dont une cordelette d'arc qui était faite en fibre d'ortie. Donc on sait par ce biais-là, on a un exemple là, par exemple, effectivement, très, très concret de, des plantes qui pouvaient être trouvées à l'époque. Donc le tilleul, il se récolte, on récolte l'écorce et l'aubier, il se récolte comme le bouleau à cette époque-ci, c'est-à-dire quand la sève circule, puisque c'est l'époque à laquelle le, les écorces se décollent toutes seules. Puisqu'autrement, si on devait les décoller au couteau, on les abîmerait et on ne pourrait pas avoir des belles pièces qui permettraient de faire des vanneries le plus étanches possible. Ça a été sans doute l'une des difficultés. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que le, la vannerie était un entrelac de matériaux qui permettait d'avoir une certaine résistance et une certaine souplesse, mais au détriment de l'étanchéité. Or, très tôt, il y avait effectivement la matière animale, les peaux. Par exemple, on pouvait faire cuire autrefois, des... on pouvait faire chauffer de l'eau et faire cuire des aliments dans une peau au-dessus d'un feu. Y avait pas, on n'avait pas de matériaux en, en végétal pour le faire. Je vous, vous verrez tout à l'heure que la vannerie est vraiment à l'origine de ces récipients étanches. On en a un exemple ici, puisque celui-ci, c'est une seule et même écorce qui est repliée en deux et recousue, soit avec du liber de tilleul. Le liber de tilleul, c'est la couche qui est juste dessous l'écorce. Hein. Soit comme celle-ci, avec de la racine d'épicéa ou de n'importe quel autre conifère. Donc le, ces matériaux sont récoltés. Après, ils sont rouis. L'écorce de tilleul est rouie, c'est-à-dire qu'elle est mise dans l'eau, comme on le fait. D'ailleurs, vous savez, ça conforte aussi cette idée qu'effectivement, le tilleul est beaucoup plus ancien que le chanvre et le lin. Vous savez comment on appelle l'opération qui consiste à mettre dans l'eau... une fois que le lin et le chanvre ont été mis dans l'eau et qu'on peut séparer la fibre des parties ligneuses, l'opération porte un nom, c'est le taillage. Et le taillage, ça vient de tilia, c'est le tilleul. La racine, c'est le tilleul. C'est effectivement le tilleul, l'arbre, qui a donné ce nom qui est devenu générique pour toutes les plantes qui sont travaillées de cette façon-là. Donc le tilleul, effectivement, il est roui et ensuite il est taillé, c'est-à-dire qu'on sépare, mais là on le fait à la main, on n'utilise pas de broye comme pour le lin ou le chanvre, on le fait à la main. On récupère des fibres qui ensuite sont cordées. Et avec ces fibres cordées, donc soit on peut faire des coutures, donc elles peuvent faire selon la longueur et l'absence de nœuds. Dans des jeunes rejets, on peut avoir des longueurs de 1,50 m, 2 m. On peut avoir de belles aiguillées de tilleul. On peut faire des vanneries comme celle-ci. Mais en faisant des cordes, on peut aussi faire des filets. Je me prends les pieds. Voilà, ça c'est un filet en liber de tilleul. Il y a à peu près 200 heures de travail là-dessus. Ça se fait comme de la couture hein, sur les salons pendant peut-être un an. Voilà, en attendant votre venue, venir voir les bouquins, ben je tressais mon petit filet de tilleul et puis au bout du compte, on a un superbe objet assez unique qui dure hein, et que j'emmène sur le terrain. Donc il est utilisé, il est très solide. Il y a quelques fibres de temps en temps qui partent, mais il est très solide. Comme souvent d'ailleurs, ces objets-là, ce sont des objets qui sont réparables. Leur durée de vie, elle est très variable, mais elle peut être très très longue. Soit ils peuvent être utilisés intensément à une durée de vie très courte, mais ce n'est pas grave, puisqu'on a le matériau sous place, on en refait. Soit, effectivement, ils demandent beaucoup de boulot, et à ce moment-là, on en prend soin, et on peut les faire durer très très longtemps. Voilà, deux modèles de petites bourses. J'avais un autre modèle ici, c'est un fourreau d'un couteau qui est fait aussi en liber de tilleul. Le liber de tilleul, une fois qu'il est... sorti des tilleuls, il ressemble à ça. Ça fait des fibres. Ça ressemble à du raffia. Une botte de liber de tilleul prête à être travaillée, ça ressemble à une botte de raffia. Sauf que c'est un petit peu plus rustique, c'est moins régulier, bien sûr, que le raffia. Mais pour apprendre ces techniques-là, on peut commencer à les faire avec du raffia. Et après, parce que c'est long aussi de faire le tilleul et après passer au tilleul. Une autre vannerie, puisqu'on parlait d'étanchéité. Celle-ci est très intéressante. C'est une vannerie spiralée cousue. Là, j'en ai trois modèles différents avec trois matériaux différents. Et il y a bien d'autres matériaux qui pourraient être utilisés pour ça. Celle qui reste sur le banc, c'est avec de la lavande. Celle qui est au-dessus, la petite, c'est avec des aiguilles de pin. Et celle qui est dessous dans ma main, je pense... je n'ai pas mes lunettes, mais je pense que c'est soit du seigle, soit de la molinie. Mais là, à ce stade-là, et depuis le temps, je ne suis plus trop sûr de moi. Ces vanneries, ce sont des vanneries spiralées cousues. Alors là, le côté universel, il est flagrant, puisque partout autour du monde, on retrouve ce type de vannerie. Très sommaire et très rustique chez nous, puisqu'elle ressemble à ça. En Afrique, c'est multicolore. En Asie, pareil. En Amérique du Nord et du Sud aussi. Donc ce sont des vanneries qui ont été réalisées partout autour du monde, avec des degrés de perfectionnement tout à fait très, très, très différents. Et on est un petit peu les parents pauvres de l'histoire. Ce sont les vanneries sans doute les plus anciennes qu'on a retrouvées en termes d'archéologie, parce qu'on en a retrouvé les empreintes dans des poteries. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'étanchéité et l'importance pour les anciens d'avoir des récipients étanches. Les archéologues ont compris, grâce à ces vestiges, à ces traces dans les poteries, que les premières récipients étanches étaient des vanneries étanchéifiées avec de l'argile. La vannerie a pu servir de moule aussi, c'est-à-dire qu'on a pu faire une vannerie en moule, on a pu tapisser de terre et après brûler la vannerie pour récupérer la poterie. On ne sait pas précisément exactement comment ça a marché, mais toutes ces hypothèses sont tout à fait plausibles. Et ce qui est sûr, et ça les archéologues l'ont prouvé grâce à ça, c'est qu'effectivement, la vannerie, même si on n'est pas remonté jusqu'à l'origine de l'humanité, la vannerie est plus ancienne que la poterie. Et effectivement, c'est relativement simple de faire ce type de vannerie. Il faut savoir qu'on peut faire ce type de vannerie sans outils. En voilà un petit exemple. Sans aucun outil, donc technologiquement parlant, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de... Là, c'est avec du jonc. C'est ce qui permet... Le jonc, on ne le coupe pas, on le tire. Vous arrachez les brins un par un. Vous les avez sur toute la longueur, vous avez toute la solidité. Ce n'est pas forcément n'importe quel jonc, parce qu'il y a tellement de joncs différents. Là encore, selon le jonc qu'on va utiliser, je vous en montrerai d'autres réalisations tout à l'heure, on peut faire des objets différents. Mais ça, c'est le jonc le plus classique qui soit, qui pousse dans les prés humides. C'est le jonc aggloméré ou le jonc diffus, l'un des deux, permet de faire ces petites vanneries-là. Et donc, juste avec le boudin cousu avec un jonc. C'est-à-dire que le boudin et le lien, c'est la même matière. Traditionnellement, les vanneries spiralées cousues chez nous sont cousues avec de la ronce. C'est vrai qu'aujourd'hui, et tout à l'heure, je parlais de cette notion de sauvage et je disais que dans un bouquin comme la vannerie sauvage, il peut y avoir quelques espèces cultivées, même si elles sont pas... Enfin, le châtaignier a vraiment été cultivé pour la vannerie, hein, dans le Limousin, en Corse, dans les Pyrénées aussi. C'était un matériau qui avait beaucoup de valeur et qui était vendu, soit il était vendu, soit il était utilisé tel que. Mais c'était un matériau qui était... On faisait des CP exprès pour travailler son bois et pour en faire de la vannerie ou des cercles de tonneaux ou d'autres choses comme ça. Faut pas trop que je me perde. Ça y est. Vous allez m'aider. On remonte le temps. Oui, ça fait un petit moment qu'on remonte le temps. Bon, je vais... Ah, la ronce, merci, voilà. Oui, voilà, la ronce est la notion de sauvage. Aujourd'hui, pour nous, la ronce, c'est la pire des saloperies. Je peux me permettre de le dire, parce que j'ai écrit un bouquin il y a presque 20 ans qui s'appelle « Pour l'amour d'une ronce ». Quand je me suis installé dans les Pyrénées, la première chose que j'ai faite, c'était sur une vieille exploitation agricole qui était abandonnée depuis 50 ans. Il n'y avait pas un brin d'herbe, je n'exagère pas, il n'y avait pas un brin d'herbe. C'était que des ronces, des bouleaux, des saules, enfin voilà, tout était redevenu en friche. Et je me suis battu contre les ronces pendant des années, jusqu'à comprendre effectivement... Je l'ai vite compris d'ailleurs, hein, parce que quand vous nettoyez un roncier et que vous voyez la terre comme elle est derrière, comme elle est belle et prête à donner et à produire, vous comprenez que la ronce n'est pas du tout une mauvaise plante en soi. C'est juste nous qui avons perdu le sens de notre bon sens et on n'en connaît plus les usages. Et parmi l'un des usages que j'ai découvert très tôt, puisque cette vannerie fait partie des deux modèles de panier que j'ai appris à faire quand j'avais une vingtaine d'années, justement, dans les années 75, j'ai très vite compris effectivement que cette plante était juste merveilleuse. Et avec la ronce, on fait des éclisses très longues et avec lesquelles on peut faire tout type de panier. Il n'y a pas de limite. C'est vrai que la vannerie spiralée cousue est sans doute la discipline qui lui convient le mieux, mais on peut aussi remplir des paniers sur arceau avec de la ronce. On peut aussi coudre une vannerie en écorce avec de la ronce. On peut tout imaginer. Pourquoi pas coudre un canot avec de la ronce, ça serait marrant. Donc voilà, vannerie spirale et cousue. Oui, donc ça, on est aussi dans de la vannerie spirale et cousue, mais effectivement avec un seul matériau où l'âme du panier et le lien est le même matériau, alors que là, il y a deux matériaux à chaque fois. L'éclisse, elle est en ronce, mais elle peut être aussi, ça peut être aussi une éclisse d'osier, ça peut être aussi une éclisse de noisetier, ça peut être aussi. Et on a des cas ethnologiques d'utilisation du noisetier très, très importante justement dans ce type de vannerie rurale et paysanne. Un autre à la fois matériau, je l'ai casé ici, c'est difficile de caser les choses parce qu'ils ont multifacettes, on pourrait les passer à une place ou à l'autre sans inconvénient, mais je l'ai placé ici parce qu'on est aussi dans le matériau facile à travailler, avec très peu d'outils, voire pas du tout. Un simple couteau en silex, on peut faire des chaussures comme celle-ci. Celle-ci, elle est faite en massette, mais on peut aussi la faire en libère de tilleul, sur exactement le même principe, ou en écorce aussi, sur un principe un petit peu différent du tressage à nappe. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que la vannerie était dans tous les domaines de la vie de l'homme, présent dans tous les domaines de la vie. Je vous ai parlé des vêtements et des accessoires. Il y a des chapeaux là-bas tout à l'heure, qu'on verra tout à l'heure. Mais il y a aussi les chaussures, le pagne, bien sûr, des capes qui étaient faites en jonc, etc. etc. Il y a de multiples exemples. Et j'ai même ramené, comme ça je vais faire le lien, une cravate. L'une des rares fois de ma vie où j'ai porté une cravate, c'était pour le lien créatif. Elle est en paille tressée, donc là aussi, la technique de la tresse est très ancienne. Je peux pas faire une échelle en disant, à part pour la vannerie spirale et cousue, grâce à ses empreintes dans l'argile, on sait qu'effectivement c'est très ancien, mais c'est la seule vannerie pour laquelle on ait effectivement des références. On a retrouvé beaucoup de vanneries dans les tombes des pharaons, on a aussi des références, mais c'est relativement récent quand même, c'est 5-6 000 ans. Avant Jésus-Christ. C'est pas très très ancien. Plus antérieur, on a que celle-ci. Mais ça veut pas dire que les autres n'existaient pas, bien au contraire. Je suis convaincu du contraire.
Vous écoutez la conférence de Bernard Bertrand aux sources de l'autonomie, la vannerie sauvage, une conférence enregistrée lors de la foire Biocibelle, édition 2018, à Groyer.
Donc avec là, on prend des matériaux souples, qui sont déjà souples au départ, que l'on tresse, et avec tresse avec laquelle on va faire des objets. Alors ça peut être une fronde. Là, j'ai fait une cravate, mais ça aurait pu être une fronde. On a des exemples comme ça de frondes qui étaient faites au sud de l'Espagne, avec la sparte, une herbe très dure qui est utilisée traditionnellement là-bas en abondance, avec laquelle les paysans et les sociétés rurales faisaient absolument tout ce dont ils avaient besoin. Je continue mon petit inventaire. J'ai commencé de vous parler des joncs. Ben, je vais continuer avec ceci. Là aussi, alors ça, c'est une autre variété de joncs. Ce sont des joncs. Le jonc aigu, c'est un jonc qui pousse en bord de mer. Et ce sont des vanneries paysannes. Ce sont des faisselles à fromage. Pour égoutter le fromage. Ce sont des faisselles corses qui étaient faites par les bergers corses quand ils gardaient leur troupeau avec du jonc. Donc ils faisaient bien sûr les transhumances l'été en montagne, l'hiver en bord de mer. Et l'hiver, quand ils allaient en bord de mer, ils récoltaient ce jonc aigu qui est un jonc qui pousse sur la zone maritime. Il faut qu'effectivement l'eau soit salée, saumâtre. Ils le récoltaient là et ils faisaient leurs faisselles l'hiver parce que ces faisselles ont une durée de vie d'un an. Donc chaque année, ils les renouvelaient. Certaines duraient peut-être un petit peu plus, mais grosso modo, c'était ça. Et ils passaient l'hiver à refaire leur faisselle pour pouvoir faire leur fromage l'été suivant en montagne. Donc on retrouve effectivement tous les ingrédients. Ce sont des techniques qui sont encore pratiquées en Corse, mais bien sûr pas par les bergers. C'est très intéressant la Corse parce qu'en Corse, on a conservé la tradition a conservé trois plantes extrêmement précieuses pour les populations rurales là-bas et avec lesquelles on continue encore de tresser. Il y a le jonc maritime, donc celui-ci. Il y a le myrte, on verra des paniers tout à l'heure avec. Et la troisième, je vais l'oublier. Ça me reviendra. Ben, ça y est, je l'ai mangé. Il y a le jonc, il y a le myrte, et puis il y en a une troisième. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra, puis tout à l'heure, je vous le dirai. Il y a aussi du châtaignier en Corse, il y a aussi d'autres matériaux. Mais le châtaignier étant cultivé, on n'est plus dans la vannerie sauvage. Le jonc, le myrte et la troisième que j'ai mangée sont des matériaux sauvages. Et on reconnaît comme ça, on peut effectivement voir que ces matériaux-là étaient plus précieux que ne pouvait être l'osier. Et l'osier qui est arrivé en Corse, ça fait pas plus de 50 ans qu'il est utilisé par les vanniers. Avant, la vannerie traditionnelle, si vous prenez des vieux bouquins, des choses comme ça, on trouve toujours ces matériaux autochtones récoltés sur place, qui coûtaient rien, qui étaient gratuits. Cette notion-là est extrêmement importante parce qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, des matériaux comme le châtaignier, par exemple dans les Pyrénées, les matériaux comme le châtaignier étaient vendus et les paysans faisaient des paniers en noisetier. Le noisetier n'avait pas de valeur marchande, les rejets de noisetier n'avaient pas de valeur marchande, donc on gardait pour soi, pour faire nos paniers, pour la ferme, on gardait le noisetier et on vendait le châtaignier parce qu'il permettait de rapporter quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, il y a le chèvrefeuille est aussi une plante utilisée en vannerie, mais c'est pas celui-là qui me manque. Non, mais ça va me revenir. Ça, c'est l'heure de ma sieste, hein. Normalement, je ne fais pas de conférence à 14h. Donc, on continue le petit tour. Alors, on va changer de technique. Puisque j'étais dans le myrte, on va s'en servir pour faire la transition. Voilà, un panier en myrte. La canne de Provence, voilà. Le troisième matériau que je cherche, c'est la canne de Provence, qui est sauvage, sauvage. Ouais, il faut... Est-ce que c'est sauvage ou pas ? C'est l'homme qui a introduit la canne de Provence autour de ses cultures pour faire des brise-vents. Et ça revient. Je ne suis pas allé au bout de mon explication tout à l'heure avec la ronce, mais la ronce, est-ce qu'elle est sauvage ou pas ? Il faut savoir que jusqu'à une période récente, c'est-à-dire moins d'un siècle, la haie faisait partie de la culture, faisait partie des ressources de la ferme et de tous les paysans et les gens qui vivaient à la campagne. Et on entretenait cette haie. Et on entretenait aussi bien les ronces que le chèvrefeuille, s'il y en avait, ou que la clématite ou autre chose, pour faire des paniers ou pour faire autre chose. Avec la ronce, par exemple, les Corses faisaient des entraves pour les chèvres ou pour les chevaux. Donc, vous voyez, c'était la limite entre les deux, c'est nous qui la faisons aujourd'hui, mais autrefois, elle n'était certainement pas faite. Donc, le myrte, le jonc et la canne de Provence. J'ai pas de vannerie en canne de Provence. Bon, c'est pas grave. Le myrte en voici avec une autre technique. Par contre, ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est le départ. Vous voyez, le départ, ce sont des matériaux qui sont croisés les uns par-dessus les autres. Celui-ci, c'est la même chose. Et il y a plein de paniers qui sont faits selon ce principe-là. En voilà un autre. Et juste après, je vous dirai les différents matériaux. En voilà un autre. Une croisée aussi. Et puis, je vais m'arrêter là. Et puis, les faisselles corses aussi. C'est un départ croisé aussi. C'est pas spiralé cousu par rapport à ce que je vous ai montré juste avant. Donc, il y a de multiples façons de faire des croisées. Une croisée, comme son nom l'indique, hein, c'est un ensemble de matériaux qui sont posés les uns sur les autres sous forme de croix. Et après, on fait le remplissage en tournant. Dans l'espace laissé par ces matériaux, et on agrandit notre ouvrage. Une fois qu'on a fait le fond, eh bien, on rabat les côtés, on va garnir les côtés, une bordure pour finir et un panier. Après, je vais vous parler de la constitution des paniers. Donc ces croisées, elles sont multiples. La plus commune aujourd'hui, c'est la croisée qui est pratiquée par les vanniers professionnels, qui est une croisée percée, c'est-à-dire où les brins d'osier sont percés et on met trois brins d'un côté, trois de l'autre, ou quatre et trois. Après, ça dépend de la forme du panier et de la taille des matériaux aussi, et on remplit. Ça, c'est une vannerie relativement plus récente, je pense. Je parle toujours avec beaucoup de précaution, mais plus récente, je pense, que les autres techniques. Elle n'a pas été introduite, mais très souvent, on considère qu'elle a été introduite par les Romanichels. Elle nous viendrait effectivement des pays de l'Est et elle serait relativement récente. Elle est souvent associée effectivement aux Romanichels, qui sont des grands vanniers devant l'Éternel. Mais comme on voit effectivement qu'elle était pratiquée en Corse, c'est pas les Romanichels qui ont appris aux Corses à faire des vanneries en myrte avec du jonc ou avec ou avec de la myrte. Donc on voit qu'effectivement, ces choses-là sont beaucoup plus complexes que ce que l'on veut bien dire et croire. Alors de tous ces paniers, donc les matériaux. Donc celui-ci, vous voyez en quoi est fait la croisée, en fil de fer. Pour ceux qui ne voient pas bien, c'est du fil de fer. Donc ça, c'est un panier breton. Mais on le retrouve aussi dans d'autres régions, mais c'est surtout en Bretagne que ces paniers-là ont été développés. Celui-ci est en frêne. Donc j'ai montré ce hangeon ici. Il doit y en avoir. J'en ai pas en châtaignier, mais en osier. Mais vous pouvez en trouver sur le salon ici. Mais vous voyez, multiples formes de paniers et matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces vanneries sont relativement rapides à réaliser. Comparé à celles-ci, qui sont des vanneries dites sur arceau, là on est plus dans la vannerie paysanne et rurale. Là, c'est une vannerie sur arceau qui, au lieu d'être faite par le fond, elle est démarrée par les côtés. On fait une armature, une anse et une armature haute. Et après, on fait le garnissage par les côtés, une clé de départ. Et après, on fait le garnissage sur les côtés et on termine au milieu. Ces techniques-là, qui étaient des techniques éminemment rurales, pratiquées un petit peu partout aussi, sont beaucoup plus longues à faire que les vanneries sur croisées. Par contre, elles présentent un avantage. C'est qu'une fois qu'on a démarré un panier comme ça, il faut aller au bout. Comme celui-ci, il faut le faire, il faut aller au bout. Parce qu'autrement, vous n'arriverez pas à rabattre et à faire la bordure haute si vous laissez sécher votre ouvrage. Alors que celui-ci, vous pouvez commencer aujourd'hui, faire juste les anses et les clés de départ. Vous pouvez faire les arceaux dans 6 mois. Vous pouvez faire le remplissage dans 1 an, laisser tomber, revenir 1 an ou 2 après. Et même 10 ans après, vous pourrez toujours finir votre panier. Ce n'est pas ce que les gens faisaient, bien sûr, mais ils travaillaient en gardant les bêtes, par exemple. Donc, ils avaient peu de temps à consacrer à la vannerie parce qu'il fallait aussi courir derrière les bêtes pour pas qu'elles aillent chez le voisin. Donc, la durée de travail sur le panier était relativement courte dans la journée. Et en pratiquant ces techniques-là, ils pouvaient reprendre leur ouvrage quand ils voulaient. Ou alors à la veillée. 2-3 heures de veillée chaque jour. Et puis, c'est beaucoup... La vannerie était beaucoup faite en hiver, mais pas uniquement. Ah, ça, c'est intéressant aussi à savoir. En général, c'est novembre, fin février, mi-mars. Parce qu'effectivement, c'est la période... Il y a deux raisons à cela. C'est la période de descente de sève. C'est donc là où les matériaux vont se conserver le mieux. Une fois qu'ils vont être mis en forme, sous la forme d'un panier, les matériaux vont se conserver longtemps. Et puis, c'est la période de disponibilité aussi des paysans. L'hiver, les gens avaient le temps, donc ils faisaient des paniers. Ils ne s'amusaient pas à faire des paniers pendant la récolte des céréales ou pendant les foins. Mais il y a des exceptions, bien sûr, à ces règles, comme toujours. Par exemple, dans les Pyrénées, les gens faisaient les paniers en noisetier, en gardant les bêtes en été. Et à ce moment-là, effectivement, ils le faisaient avec des matériaux verts en pleine croissance. Donc, vous voyez, il y a toujours plein d'exceptions qui viennent nous montrer qu'effectivement, on n'a pas de règles vraiment figées dans ce domaine comme dans d'autres. Ben, en voilà un autre. Là, il y a de l'osier, il y a de la clématite, il y a différents matériaux. Très souvent, c'est pas le cas ici, mais la clé de départ peut être faite en ronce, par exemple, parce que ce sont des éclisses très longues et très, très fines, très souples. On peut le faire. On peut aussi garnir tout le panier en ronce. Le problème, il va se contracter, la ronce va se contracter un petit peu, il faudra le recharger plus souvent. Ce qui est intéressant, c'est vrai que si on peut le travailler tout le temps, c'est que, alors c'est aussi une différence entre la vannerie rurale, paysanne ou sauvage et la vannerie professionnelle, c'est qu'on travaille toujours avec des matériaux verts. D'une manière générale, on travaille toujours avec des matériaux verts. Ça veut dire qu'il y a une dessiccation du matériau et donc les ouvrages sont moins solides. C'est d'ailleurs ce qui faisait la différence, parce que les gitans aussi travaillaient avec des matériaux verts. Très souvent, avec les gitans, pour vendre un panier, ils les mettaient trempés dans l'eau toute la nuit avant de les présenter sur le marché. Parce que entre le moment où ils les avaient faits et puis le moment où ils étaient prêts à les vendre, il s'était écoulé 8 jours, 10 jours, 15 jours, et le panier paraissait moins solide. Il était plus souple. Je ne pense pas que ça changeait quoi que ce soit à la solidité, mais il était plus souple, effectivement, il paraissait moins solide. Donc en vannerie paysanne et rurale, on travaille toujours avec des matériaux verts. Et ici, comme on termine par la fin, on peut longtemps après resserrer, voyez comme je fais, resserrer, faire la place et repasser des nouvelles clisses. Ce qui fait que là, vous pouvez utiliser n'importe quel matériau, vous aurez toujours des paniers hyper solides. Je continue. Je crois que j'ai oublié de vous montrer ça en vous parlant des tresses. Les tresses, donc par exemple la cravate, hein, c'est une tresse à 7 brins. Je ne sais pas où elle est passée, elle est là. Donc avec cette tresse, en la cousant sur elle-même, on obtient ce type d'objet, par exemple. Mais on peut obtenir aussi un chapeau de paille, je vous en montrerai tout à l'heure. Il est là, le chapeau. Ça, c'est de la sparte. C'est aussi une tresse cousue. Donc la sparte, c'est cette plante qui pousse en Espagne, sur le pourtour méditerranéen. C'est une tresse cousue. Mais avec notre paille de seigle, on fait ce type de chapeau. Merci. On fait ce type de chapeau. Donc le seigle, c'est pas sauvage. Hein. En sauvage, en chapeau, on fait ça, c'est avec de la massette. Celui-ci est fait en massette. Donc la massette, c'est la quenouille, c'est un roseau. On l'appelle improprement un roseau, mais ça fait la quenouille, vous savez, la fleur et fruits, ce sont un ensemble de fruits blancs. Enfin, c'est noir au début, et puis quand vous le dépiotez, c'est blanc, ça sert à allumer le feu, des choses comme ça. C'est la quenouille. Ça pousse dans les fossés, oui, les pieds dans l'eau, oui. Donc ça, c'est la massette. Et intéressant, je vous ai montré un panier tout à l'heure. Intéressant parce qu'effectivement, ça ne coûte rien, ça pousse en abondance, c'est même très envahissant. Et avec très peu d'outils, ça, c'est un objet qui est fait quasiment avec pas d'outils. Un couteau, ça suffit. Mais si vous trouvez un moyen pour couper la massette, vous n'avez même pas besoin du tout d'outils. La sparte et l'alpha, c'est exactement la même chose. Donc, c'est effectivement de la même famille. Toutes ces questions techniques, peut-être, on les prendra après. Je vais pas terminer. Je vais bientôt terminer. Je vais pas faire trop long. Alors, j'en suis où? Oui, les vanneries à nappe. Il faut que je vous montre les vanneries à nappe. Voilà un autre style de vannerie. Donc, on a vu les vanneries sur croisée et les vanneries sur arceau. Les vanneries à nappe, c'est une autre technique. Que ce soit les vanneries sur arceau ou celles sur croisée, on a des montants et un garnissage. Là, pas du tout. Tous les matériaux ont le même usage. Il n'y a pas des matériaux plus épais que d'autres qui serviraient de montant ou pas. C'est tout la même chose. C'est une nappe. Je ne l'ai pas dit, mais quand on fait de la vannerie, on est tout près de faire du tissage. Et c'est vrai que le dessus-dessous de la trame des tisserands, on la retrouve aussi dans la vannerie. Et il y a certaines techniques qui sont vraiment le mix des deux. Et il y a aujourd'hui des artistes qui associent les deux de façon très, très heureuse. Donc là, on est avec du châtaignier pour le fond et du noisetier pour les côtés des éclisses de noisetier. Donc sur la vannerie à nappe, je vous ai montré ce chapeau. C'est le même principe que ça. C'est-à-dire qu'on commence par cette partie-là, par le fond du haut du chapeau. C'est une nappe, c'est aussi un entrelac croisé de matériaux de même longueur et de même consistance qui permettent de démarrer notre ouvrage. Je dois en avoir d'autres. Ça, avec d'autres matériaux, des écorces de châtaignier, toujours pareil, vannerie à nappe. Donc ça, c'est des écorces, par exemple, quand on fait bouillir le châtaignier pour le refendre dans une étuve, ou qu'on le passe à l'étuve à la vapeur d'eau, on récolte les écorces qui sont super souples, et avec, on peut faire des vanneries qui sont très solides et très résistantes. En dehors de l'écorce de bouleau et de celle du tilleul, on connaît peu d'usage traditionnel de la vannerie dans les sociétés anciennes. Pour autant, voilà, ce sont des oublis de l'histoire, on va dire. L'écorce de châtaignier, ça marche très très bien et on peut en trouver d'autres, celle du saule aussi d'ailleurs. Je vous ai parlé du jonc. Voici une autre vannerie en jonc avec un départ sur croisée de la même façon, mais on est un petit peu entre les deux puisque un nappe. Et très vite, on est passé de la nappe à la croisée. Donc, vous voyez, les techniques peuvent se mixer aussi. Et puis, on est monté. Donc, c'est un seul et même matériau. Là encore, du jonc. Un jonc solide, soit du jonc maritime, soit le jonc aigu dont j'ai parlé tout à l'heure. Les joncs trop souples, la vannerie n'aurait pas de tenue. Donc, c'est vrai que c'est important de connaître les différents matériaux. On voit là un autre en jonc très, très rigide avec le jonc aigu. Un petit sac, une vannerie à jouer, ça la rend plus légère, plus facile à porter. Une petite vannerie à jouer, elle est faite en jonc avec un système au départ de torches qui permettent de lier ensemble tous les montants et ensuite c'est rabattu. C'est relativement simple à faire. C'est plus facile quand on a quelqu'un qui nous montre, bien sûr, mais c'est des techniques relativement simples à faire. On tâtonne un petit peu au début. Mais en pratiquant, on arrive très très vite à avoir des résultats. C'est quelque chose que je dis à chaque fois que je démarre des formations auprès des vanniers. C'est bien, c'est bien de faire un panier une fois dans sa vie, mais si vous n'en faites qu'un, 6 mois après, vous aurez tout oublié, y compris le geste le plus simple. Donc c'est bien d'apprendre et de persévérer, de faire et de refaire, tant que la technique n'est pas maîtrisée. Une fois qu'elle est maîtrisée, ça va mieux. Deux autres petites techniques, à Naples. Celle-ci est intéressante parce qu'elle est en écorce de merisier, doublée, et celle-ci avec des feuilles de palmier. Beaucoup de vanneries en palmier aussi. Il y a certaines civilisations qui reposent entièrement sur l'usage et l'artisanat lié à une plante ou une famille de plantes. Et chez nous, on pourrait citer le châtaignier, par exemple. Hein. Il y a des cultures dans les Cévennes, l'Ardèche, certaines régions de Corse, un petit peu certaines régions des Pyrénées, où tout reposait sur cet arbre. Du meuble, de la charpente, jusqu'à l'alimentation, puisque l'arbre à pain a nourri des générations et des générations de vanniers, justement, parce que avec le châtaignier, on fait aussi de la très belle vannerie. Et le palmier fait partie de ces arbres de civilisation. Dans les bords de mer, tout le pourtour méditerranéen, mais aussi toutes les îles tropicales et subtropicales, on fait tout en palmier. De la cabane, le pagne pour s'habiller et se protéger, jusqu'au sac, voilà, on fait tout en palmier. Des chapeaux, je croyais que j'en avais emmené un, mais je ne le vois pas. Des chapeaux faits avec une seule feuille, par exemple. C'est juste impressionnant. Avec une seule feuille, donc là encore, pas d'outil, hein, il suffit de couper la feuille, un outil pour couper la feuille. Mais si la tempête l'a arraché, vous prenez une seule feuille et vous arrivez à faire un chapeau ou un cabas. Donc c'est toute l'intelligence, effectivement, des vanniers, la créativité qui fait qu'avec très peu de choses, on fait de très belles choses. Je vais vous dire quelques mots. Ah oui, si, ça. Et puis après, quelques mots sur les outils pour terminer. Puis après, je vous donne la parole. Parce que je commence à avoir soif. Je vous ai parlé. Alors, il y a des grosses surprises quand on s'intéresse à la vannerie. Et à ses différentes facettes. Moi, j'ai longtemps été surpris par l'absence des racines dans les matériaux utilisés pour la vannerie. Alors que les racines, pour avoir déraciné beaucoup d'arbres pour défricher mes terrains, je m'étais très vite rendu compte que les racines étaient des matériaux très souples. C'est très facile de faire un nœud avec une racine. Pas de tous les arbres, mais quasiment, beaucoup. Le plus spectaculaire pour moi, ça a été le figuier. Ça, c'est juste génial. Vous pouvez faire une corde à nœud avec une grande racine de figuier. Ça marche très, très bien. Il n'y a rien à faire de particulier. Et puis au fil de mes recherches et de mes collectages, j'ai fini par trouver, donc bien sûr la plus connue, c'est la racine d'épicéa pour les vanneries d'Écorce, mais voilà, ce sont des techniques plutôt amérindiennes, plutôt d'origine d'Amérique du Nord, voire d'Europe du Nord, mais pas vraiment chez nous. Et chez nous, j'en avais pas trouvé jusqu'à rencontrer un vieux monsieur dans l'île de Léron qui utilisait du carex, qu'il appelait le carex des dunes, enfin le chien dans des dunes, pardon, qui en réalité est un carex qui pousse dans les dunes et dont il utilisait les racines pour faire ce qu'on appelle les hottes de pêche. Ça, c'est une miniature qu'il avait faite. Et ces hottes de pêche qui se portaient en bandoulière comme ça sont faites en racines de cette plante-là. Et depuis, on a quelques exemples de racines, de la racine de chèvrefeuille. Quelqu'un parlait du chèvrefeuille tout à l'heure. Des vanneries traditionnelles en France en racines de chèvrefeuille sont connues aussi depuis assez longtemps. Un travail très très fin. Là, on est plus dans le travail d'orfèvre que dans le travail que dans la vannerie utilitaire. Et on fait des objets très 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 fins avec, des vanneries sur arceaux, en particulier dans la région Poitou-Charentes, mais aussi dans le Limousin et dans d'autres régions où ces matériaux sont utilisés. Alors, un petit mot sur les outils. Et puis après, je vous donne la parole. Ouais, j'ai pas fini celui-là. Ouais, celui-là, je l'aime bien. C'est mon petit panier de lutin. C'est pas une racine, mais c'est une liane à laquelle on pense peu et qui est très, très agréable à utiliser. Ce qui est intéressant, ce qui peut être compliqué dans la vannerie sauvage, c'est qu'il faut préparer les matériaux, les transformer et les tresser. Mais on trouve aussi beaucoup de matériaux qu'on utilise tels que, par exemple, les pousses de lierre, par exemple, la clématite, toutes les lianes d'ailleurs, hein, le houblon, peuvent s'utiliser tels que. Et il y a une petite liane à laquelle on pense pas souvent, c'est la pervenche, la grande pervenche, avec laquelle vous pouvez faire des petits objets comme ça, comme ce petit panier de lutin qui a longtemps été sur le parcours des lutins des jardins de sortilège. Et c'est très résistant, c'est très solide. On pourrait croire que ça ne l'est pas. Il faut la laisser ressuyer. Donc je parlerai peut-être des techniques avec vos questions tout à l'heure de préparation des matériaux, parce que chaque matériau a une préparation différente, même si on retrouve des grandes familles et c'est relativement facile de s'y retrouver, mais ce sont des choses qu'il faut savoir. La pervenche n'a aucune autre préparation qu'un ressuyage, c'est-à-dire on la laisse à l'ombre pendant 15 jours, 3 semaines avant de la tresser, parce qu'autrement elle est très cassante et elle va se déshydrater tellement que votre ouvrage n'aura pas de tenue. C'est un panier qu'il faut faire en 15 jours, 3 semaines, 1 mois et régulièrement recharger jusqu'à ce qu'il ait cette consistance, je vais dire, et qu'il ne bouge plus. Donc là, vous voyez, c'est une racine de bruyère qui est intégrée pour faire la partie supérieure de la vannerie. Les outils. Alors, je l'ai dit, je le répète, on peut faire de la vannerie sans aucun outil. En particulier avec tous les matériaux que l'on peut récolter en les arrachant, en les tirant ou en les découpant simplement. Le jonc, c'est sans doute l'un des plus connus et les plus faciles à utiliser, mais il y en a d'autres. Après, l'outil minimum à avoir, c'est un couteau, un opinel. Il n'y a pas besoin d'avoir des couteaux très compliqués, mais un opinel, c'est bien. J'en ai pas, moi, mais bon, voilà, un opinel, ça va bien. Ce genre de couteau, ça va bien. Un poinçon quand on fait de la vannerie spiralée cousue, alors en os ou en buis, mais ça peut être aussi en métal. Si vous pouvez aussi recycler un bout de métal pour faire votre poinçon. Hein. D'une façon générale, et encore aujourd'hui, les vanniers fabriquent leurs outils. C'est relativement rare un vannier qui ne fabrique pas ses outils. Il fabrique l'outil adapté à sa main et adapté aux besoins qu'il en a. Donc certains vont imaginer des poinçons avec un passage pour faire passer une ficelle, par exemple, s'ils utilisent des cordelettes, ou pour le jonc, par exemple, un passe-jonc. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont pratiqués régulièrement, couramment, et qui font partie aussi de la richesse de cette discipline. Sécateurs et scies, bien sûr, c'est des outils modernes, mais bien pratiques quand on travaille des matériaux un petit peu gros. C'est pas indispensable, mais ça rend bien service quand même. Pour les ronces, le sécateur, c'est quand même plus facile qu'au couteau. On peut le faire au couteau, mais on galère un petit peu. Voilà pour ce tour d'horizon de la vannerie sauvage. Des techniques, des matériaux utilisés. J'imagine que ça vous laisse plein de questions en tête. J'ai peut-être divagué un petit peu trop certaines fois. Je ne suis pas allé au bout de tous mes raisonnements, je m'en excuse.
Alors merci bien Bernard Bertrand. On va vous laisser boire un petit coup si vous voulez. J'ai rapporté des verres. Donc pour ceux qui auraient pris la conférence en cours, elle sera donc téléchargeable et diffusée sur les ondes de radio Albigès. Il y a un micro qui est au milieu du chapiteau si quelqu'un veut poser une question. Alors est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors vous pouvez prendre le micro.
Vous écoutez la conférence de Bernard Bertrand aux sources de l'autonomie, la vannerie sauvage, une conférence enregistrée lors de la foire Biocibel, édition 2018, à Groyé.
C'est quoi la différence entre le libère et l'aubier ?
Ça démarre fort. Très très bonne question. On sait pas vraiment. Alors, le libère est un terme utilisé par les forestiers et l'aubier serait plutôt utilisé par les thérapeutes. Le libère et l'aubier de tilleul, c'est exactement la même chose. Je ne trouve pas de différence. Si vous achetez de l'aubier de tilleul, il n'y a pas de différence avec le libère que j'utilise pour faire mes vanneries. Voilà. Mais après, il y a une différence très, très subtile pour les botanistes et les physiologistes qui font de la physiologie végétale. Mais elle est très, très subtile. Mais physiquement, on ne peut pas faire la différence.
Pour les lianes, comme le houblon, la clématite, est-ce que on les utilise comme la ronce aussi? Qu'est-ce qu'on utilise? Alors, quand, comment?
Non, on ne les utilise pas pareil.
Comme la grande pervenche, non.
Non. Beaucoup, il n'y a pas tant que ça de lianes. On peut les compter sur les doigts d'une main ou de deux. Il n'y a pas dix lianes chez nous. Hein. Vous les avez à peu près toutes citées.
J'ai du houblon et de la clématite.
Le houblon, la clématite peuvent se tresser telles que sans autre préparation que la récolte. Il faudra par contre adapter la taille de votre clématite à la taille de l'ouvrage que vous faites. Ne prenez pas de la grosse clématite pour faire un petit ouvrage.
Oui, non, la sauvage...
Mais si vous faites un petit ouvrage, la petite clématite, les branches les plus fines, peuvent être utilisées entières. Mais on peut aussi très facilement le refendre. Ça peut être un bon moyen aussi d'apprendre le geste et avoir deux éclisses à ce moment-là. La clématite, on l'utilise en hiver, là, c'est important, parce que l'été, si vous l'utilisez maintenant... Elle va être cassante, elle va casser facilement aux entre-nœuds. Et même en hiver, elle casse facilement aux entre-nœuds, donc ça demande un petit peu de précaution. Mais j'en ai pas emmené, mais c'est un matériau fabuleux. Moi, je l'adore parce que très, très solide. Les vers s'y mettent jamais dedans. Et il a un petit peu l'apparence du rotin, avec les nœuds en plus. Et on fait vraiment de très, très belles choses avec. Après, la ronce est particulière, puisque la ronce, il faut la fendre. Alors, j'ai vu des vanneries faites avec de la ronce entière, des ronces fines. Et selon là où vous allez, par exemple, pour tour méditerranéen, on a la petite ronce bleue, très fine et très longue. Vous l'écrasez avec entre deux galets ou entre un bout de bois et un caillou. Vous enlevez les racines et pourquoi pas l'utiliser entière. Mais la ronce commune qu'on trouve dans les haies, qui est une liane qui monte à 3-4 mètres de haut, elle, on la fend en 4 ou 5. On enlève les épines d'abord, on la fend ensuite, on enlève la moelle. Donc c'est une technique un petit peu particulière de préparation qui au début est un petit peu longue et fastidieuse parce qu'on en coupe beaucoup, on en casse beaucoup. Mais quand on a le tour de main, ça va très très vite. On fait 20-30 mètres d'éclisse de ronce à l'heure facilement, sans problème. Une ronce tous les quarts d'heure, moi je mets à peu près. Qui ferait 2 mètres, 4 fois 2, 8... x 4, 32. Vous faites un panier avec, quoi. En une heure de d'éclissage de ronces, vous faites un panier. Alors, la massette, on utilise la feuille. On n'utilise pas l'épi avec la quenouille. Hein. Il est trop dur et trop cassant. On utilise la feuille. On la récolte à la fin de l'été. La plupart des matériaux se récoltent à maturité. Bien sûr, c'est là où ils ont toute leur solidité. Si vous ramassez un matériau quand il est en pleine croissance, par exemple des rejets de pervenche qui démarrent juste comme en ce moment, il n'aura pas de tenue. On attend que les bois soient outés, donc qu'ils aient un maximum de résistance. La massette, c'est pas une graminée, c'est une, j'ai oublié le nom de la famille, bon, peu importe, Typha, je ne sais plus. Typhacée, voilà, Typhacée. Son nom latin, c'est Typha. Elle se ramasse pareil en fin de saison. Donc, quand l'épi est formé, comme les graminées, ça c'est le critère qui permet de récolter les graminées lorsque les épis sont formés ou juste avant, quand elle est en fleur. Si on veut garder une certaine couleur à nos graminées, par exemple le seigle, si vous voulez que votre seigle garde une certaine couleur verte, des teintes, on va le récolter avant la maturité des fruits. Si on traîne trop, après le matériau risque de devenir sec et cassant. La massette, ce n'est pas le cas. On a des témoignages de récolte soit juillet-août, soit un petit peu plus tard, y compris à l'entrée de l'hiver. Et donc la massette s'utilise soit telle que, soit on peut fendre les feuilles en deux. Parce que les feuilles sont assez larges. Et avec une aiguille, vous partez de la base de la feuille quand elles sont grandes. Et vous tirez comme ça. Et ça permet de fendre. Oui, madame, le micro.
Oui, il est là.
Alors, c'est moi une question.
Oui, j'en reviens à la ronce. Une fois que la ronce est prête...
Bien
est
devant le micro, s'il vous plaît.
Une fois que la ronce est coupée en quatre et qu'elle est prête, est-ce qu'on peut l'utiliser directement ou faut-il la faire tremper?
Alors oui, on l'utilise. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise en vannerie, sauvage, paysanne, rurale, appelez-la comme vous voulez, principalement des matériaux verts. C'est-à-dire qu'on prépare nos matériaux et on ne les prépare pas d'avance et on les utilise au fur et à mesure. C'est comme ça que ça se conserve le mieux. Puis c'est le plus facile. En plus, on fait les matériaux qu'on a besoin et puis voilà, on n'en fait pas plus, on n'en perd pas. Pour autant, tous les matériaux qui sont... Ça, c'est une règle générale. Il y a sans doute des exceptions, mais bon, voilà. Règle générale, tous les matériaux qui sont récoltés verts, qui sont séchés proprement, et c'est le cas de l'osier, ça peut être le cas de la ronce, du noisetier, tout ça, et qui sont réhydratés, vont retrouver leur souplesse. Ça veut dire que si vous voulez faire en série, pour des questions de rationalité, une journée d'éclisse de ronces, ou alors parce que vous avez des animations à faire l'été, vous voulez faire vos ronces l'hiver parce que c'est là où elles seront le plus solides, vous pouvez très bien faire votre stock d'éclisse de ronces, les mettre en couronne, et juste avant de vous en resservir, 8 jours après, ou 2, 3 mois après, ou 1 an, ou 2 ans après, les remettre dans l'eau chaude, elles seront très vite réhydratées et retrouveront très vite leur souplesse, ou dans de l'eau froide, et à ce moment-là, il faudra les mettre toute une nuit dans l'eau pour qu'elles retrouvent leur souplesse. Donc on peut jouer sur les deux tableaux. Traditionnellement, on utilise plutôt des matériaux frais, juste coupés, mais on peut aussi les sécher et les réutiliser plus tard. Il faut savoir que tous les matériaux qu'on utilise secs, c'est pour ça que les vanniers professionnels utilisent l'osier, ils le sèchent et ils le réhydratent, parce qu'il y aura moins de phénomènes de rétractation et les ouvrages seront plus solides au séchage par la suite. Ça, c'est important. Alors ça casse, oui, mais comme on le réhydrate pour l'utiliser, il ne casse pas. Et c'est vrai que le trempage, vous avez raison madame, je vois que vous faites la moue et vous avez tout à fait raison. C'est des questions qu'on nous pose régulièrement au lien créatif. Comment est-ce qu'on trempe correctement l'osier? Parce qu'effectivement, les points de trempage semblent compliqués. Moi, je ne suis pas vanier professionnel, je n'utilise pas l'osier, je n'ai jamais trop tressé l'osier. Mais effectivement, le point de trempage semble quelque chose d'assez délicat et on peut supposer que selon les variétés, le trempage soit différent. Il y a des osiers qui se trempent mieux. Si quelqu'un a une réponse d'ailleurs, peut nous éclairer là-dessus, ça serait sympa. Non ?
Fin d'hiver, on a remarqué que les osiers étaient très cassants. Les gens qui le travaillent, qui voulaient le travailler pour faire des choses dans le jardin. Et bon, ben voilà, on n'a pas expliqué à part...
Des fois, il n'y a pas d'explication. C'est simplement la météo hein, qui fait des étés trop secs. Ça peut être simplement ça. Hein. Après, il y a des tas de choses qui nous échappent. Heureusement ou malheureusement, mais il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est vrai que la récolte des matériaux de novembre à fin février, début mars, permet d'éviter de nombreuses difficultés. Mais ce n'est pas une garantie en soi, bien sûr. Effectivement, s'il y a avec des sécheresses prolongées et tout ça, des fois, il vaut peut-être mieux accélérer la récolte. Je ne sais pas. Il faut faire ses essais et puis noter, observer et progresser de cette façon-là. D'autres questions ?
J'en avais une sur les graminées. Je suis là. sur les graminées, tout type de graminées, à part la Moligny, le reste aussi.
Oui, tout type de graminées, on peut utiliser tout type de graminées, y compris du foin. Je me suis retrouvé une fois à animer un stage de vannerie sauvage au Québec, au mois de mars, moins 20 degrés, pas du tout d'accès aux ressources. On est allé chez le paysan d'à côté, on a pris une botte de foin pressée et on a fait de la vannerie spiralée cousue avec du foin qui pourtant avait été broyé par la presse et ça a marché. Chacun a fait de très beaux objets. L'intérêt de la Moligny, c'est qu'elle n'a pas de nœuds, elle n'a pas d'entre-nœuds. Et effectivement, les graminées, la plupart des graminées ont des nœuds et des entre-nœuds. Et ces nœuds fragilisent la plante. On en a parlé tout à l'heure pour la clématite. C'est vrai aussi pour les graminées. Donc c'est pourquoi, par exemple, on utilise le seigle, on peut de préférence à toute autre graminée cultivée, pour faire de la vannerie, parce que le seigle est la céréale qui a les entre-nœuds les plus longs. Donc, et qui est la plus souple aussi, elle est plus souple qu'un blé par exemple. Hein. Donc voilà, ça, après c'est un petit peu du bon sens, mais si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez utiliser de l'herbe. Évitez qu'il y ait des graines dedans parce que ça attirera les souris qui vont venir boulotter votre vannerie, ça serait un petit peu dommage. Mais par exemple, la ronce a la réputation d'éloigner des rongeurs. Et c'est pour ça qu'autrefois, ce qu'on appelait les bourgnes, les gros tonneaux en vannerie spiralée cousue, étaient systématiquement faits en paille de seigle et en lien de ronces, parce que les rongeurs ne les attaquaient pas.
Je m'en demandais, au niveau technique, la question de la longueur du brin qu'on va utiliser. Selon les trois techniques, à quel moment on a besoin d'une longueur arrêtée ou à quel moment on va intégrer au fur et à mesure des nouveaux brins?
Ça, c'est au cas par cas, quoi. C'est très difficile. Alors, réponse générale, elle vaut ce qu'elle vaut. Des brins trop longs, on est souvent embêté. Vous savez, les aiguillés de feignantes, parce que les fils sont trop longs. Et on passe un temps fou à dévider notre fil pour faire le point suivant. Ce n'est pas forcément l'idéal. Après, voilà, ça va vraiment dépendre de la technique et du panier que vous faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que les raccords et les remplacements de brins sont très bien maîtrisés en vannerie. On sait très bien faire. Et on peut travailler avec des brins très courts. Je vous ai montré tout à l'heure une petite vannerie sur arceau en aiguille de pin. La voici. Les aiguilles de pin font 20-23 cm maximum. Donc ce sont des matériaux très courts. Effectivement, on passe plus de temps qu'avec des matériaux longs. Mais voilà, on a un autre résultat, une autre esthétique, et on a le plaisir de travailler un autre matériau. Donc c'est ce choix qui a présidé pour faire cette petite vannerie. En plus, elle est démarrée sur une noix d'Amérique. C'est les techniques qu'on voit en Amérique du Nord, qui étaient pratiquées par les Amérindiens. Très souvent en vannerie, ça c'est quelque chose d'important à retenir, très souvent en vannerie, la difficulté, c'est le départ. Et la fin, quand on fait de la vannerie sur osier. Mais en vannerie traditionnelle paysanne, c'est toujours le départ. La fin, en principe, ça se fait tout seul, on termine notre ouvrage et puis voilà. En vannerie, en osier, il faut faire des bordures, il faut tout ça, il y a encore d'autres. Il faut rajouter l'aisance et tout ça, alors qu'elle est inclue directement dans une vannerie sur arceau. Donc on n'a pas ces difficultés-là. Mais c'est toujours le début qui est difficile, parce qu'il faudrait avoir 36 mains. On a l'impression qu'on n'est pas capable de tout tenir, de tout maîtriser, et surtout d'avoir une régularité de travail. Donc c'est des gestes que l'on acquiert. Il y a à chaque fois, pour chaque technique, il y a une gestuelle un petit peu différente. Certains la travaillent, d'autres pas du tout. Mais en travaillant sur son geste, on peut grandement se faciliter le travail et trouver de grandes améliorations.
Mais par exemple, sur quelque chose de avec un fond tressé, quand on remonte après, il faut quand même qu'il y ait la longueur finale, ou là on peut rajouter aussi...
Non, vous pouvez raccorder. Vous pouvez raccorder, réparer, tout ça. Les Amérindiens, les populations du sud qui habitaient les zones désertiques, pas proche du Mexique, et même sans doute les populations mexicaines, autochtones mexicaines, faisaient des vanneries immenses en vannerie spirale cousue avec des tout petits brins d'herbe. Il n'y a pas de problème. Et on peut raccorder, on peut doubler les montants, et on les double sur un quart de leur longueur, et on continue et on prolonge, et on peut tout imaginer. Aujourd'hui, les vanniers, pour faire les vanniers qui font de l'art, créent des monuments qui sont... créent des œuvres qui sont monumentales. Et bien sûr, ils n'ont pas des osiers qui font 10-15 mètres de long. Donc on voit à travers cet exemple-là, effectivement, qu'on n'a pas de limite de ce côté-là. On maîtrise bien tout ce qui est raccord et réparation. Et le canot d'écorce aussi est un bon exemple. Un canot d'écorce, autrefois, il pouvait être fait avec une seule et même écorce parce qu'on disposait de boulots suffisamment grands. Aujourd'hui, c'est impossible de trouver un boulot qui permette de faire un canot en entier. Et c'est toujours des pièces qui sont mises bout à bout et avec lesquelles on fait un objet qui permet de traverser les lacs. Une ou deux autres questions, puis on va peut-être...
Oui, je voulais savoir si vous utilisez la liane de vigne.
Alors non, mais pourquoi pas. La vigne vierge, oui. La liane de vigne, je ne l'utilise pas, mais pourquoi pas. Alors après, elle n'est pas souple. Ça veut dire qu'il va falloir adapter son matériau au modèle de vannerie que l'on va faire. Mais sur certains tressages droits, il faut essayer. Parce qu'on peut imaginer aussi peut-être que selon les variétés de vignes et tout ça, on peut avoir des souplesses différentes. Je sais que la vigne vierge est utilisée en vannerie. Je n'ai jamais utilisé personnellement, mais je sais qu'elle l'est. La vigne à raisin, je ne l'ai pas utilisée, je ne sais pas.
Parce que c'est très long, c'est peut-être l'avantage.
Oui. Faut pas avoir peur d'essayer. On a des petits tests d'enroulement autour du doigt qui permettent de savoir si le matériau brut ou travaillé, parce qu'il peut être cassant brut et souple une fois travaillé. Donc il faut tester tout ça. C'est avec le temps qu'on arrive à tester des tas de matériaux nouveaux. Et c'est vrai qu'on découvre régulièrement des matériaux. Là, j'ai reçu un courrier des lecteurs au lien créatif de quelqu'un qui faisait de la vannerie avec de la bignonne. Voilà, très beau, très souple, la plante est en fleurs et tout, c'est magnifique. Et ça marche très bien. Bah, j'avais jamais eu la curiosité d'essayer. Mais voilà, ça fera un très beau courrier des lecteurs pour encourager tous ceux qui ont des bignonnes, qui sont toujours très... très dense, très intensément fournie, d'utiliser les lianes de cette plante qui est une plante d'ornement pour le coup, mais qui s'avère être une bonne plante de vannerie aussi, même si on n'en connaît pas d'usage traditionnel.
Est-ce que quelquefois on peut assouplir justement la liane, par exemple avec la main, quoi?
Oui, alors ça c'est tout le travail du vannier, c'est toutes les connaissances qu'on acquiert pendant notre parcours, c'est la façon dont on prépare les matériaux. Parce qu'effectivement, certains matériaux, on va les faire bouillir, d'autres, donc on va les fendre ou pas, et on aura comme ça. La clématite est un bon exemple, c'est un matériau fabuleux, très abondant, envahissant, qui peut faire crever des fois des arbres, donc on n'a pas de scrupule à la couper. Effectivement, passer les nœuds, c'est des fois délicat. Mais avec le temps, on y arrive très très bien et on acquiert la technique qui permet, soit en la fendant, mais aussi en affinant les nœuds là où il faut, à avoir des bons résultats. Donc c'est vrai qu'on peut... Les techniques... Alors par exemple, l'osier le plus connu, vous avez peut-être entendu parler, ou connaissez peut-être ce geste de fendre l'osier. Avec un fendoir ou avec les doigts, vous fendez l'osier en 3 ou 4. Et avec ces 3 ou 4 brins d'osier, vous enlevez la partie boisée qui est dure et cassante, toujours, hein, avec soit des petits outils qui sont fabriqués par les vanniers, soit simplement avec le couteau sur la jambe. Vous faites glisser votre éclisse et vous l'affinez. Alors oui, juste l'assouplir avec les mains, ça se fait bien sûr. Par exemple, si vous faites une anse ou une bordure haute ou une côte, on est obligé d'assouplir le bois avec la main pour lui donner la forme. Et certains matériaux, on les chauffe et on les assouplit avec la main avant de les tresser parce qu'on leur demande des efforts qui sont effectivement plus importants que ce qu'ils ne pourraient supporter. On ne le fait pas pour les ronces. Hein, on ne le fait pas pour les ronces. Mais on le fait sur d'autres matériaux.
Merci bien, Bernard Bertrand. Donc, on le rappelle qu'on peut retrouver vos magazines, le lien créatif au fond du forum. Voilà, pour s'abonner, peut-être des prochaines dates de formation à annoncer ou des prochains rendez-vous où on va pouvoir vous retrouver.
Oui, il y en a une fin, j'allais dire non, mais si, il y en a une et il reste encore des places. C'est fin novembre au CPIE d'Azay-le-Ferron dans la Brenne. Donc un stage de 5 jours de perfectionnement, c'est pas le mot, mais de pratique de vannerie sauvage dans la nature. 5 jours fin novembre. Vous allez sur le site du... Je pense pas qu'on ait les dates. Vous allez sur le site du CPIE d'Azay-le-Ferron, CPIE de la Brenne. Et là, tous les ans, avec une amie, Babette Olivier, et Christina sera aussi présente, on fait des stages, on fait des formations de vannerie sauvage. Et après, il faut surveiller le site du lien créatif. Sur le site du lien créatif, vous avez tous les stages de tous les vanniers de France et de Navarre qui veulent bien nous confier les informations. Donc vous avez pléthore de possibilités pour aller vous former. Il n'y a pas que nous. Vous pouvez trouver plein d'opportunités intéressantes pour vous former à des techniques de vannerie très, très différentes. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt et puis bonne fin de salon.
C'était la conférence de Bernard Bertrand aux sources de l'autonomie, la vannerie sauvage. Bernard Bertrand est créateur des éditions du Terran. Une conférence enregistrée lors de la foire Biocibel 2018 à Grouillet.